Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs de FM+. Bonsoir, il est 21h, vous êtes sur le 91 de la bande FM à Montpellier. Et c'est le moment de la lecture des textes écrits à l'atelier d'écriture radiophonique du mardi soir. Tous les mardis, 18h30 en bas, on écrit 21h, on prend l'antenne. Et on lit, et c'est ce qui va se passer. Alors, ce soir, par ordre d'apparition, Nanou, Pierre Lune, Amandine, Clément, Christine, Carolina et Marie. Voilà. Et donc c'est Nanou qui commence. Nanou, à toi.
Un îlot, plat, isolé comme un mirage. Un îlot, entre étang et salin. Un îlot, entre le ciel et l'eau. Je suis un goéland, habitant de la lagune. Je reviens du matin, je reviens du soleil. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers qui s'étend des cabanes des Arresquiers au massif de la Gardiole en passant par l'ancien Salin pour s'ouvrir sur le chemin des pêcheurs et les trois petits ponts. L'îlot, c'est mon repère, mon paradis, mon souffle, ma raison. Un îlot, comme les dieux n'auraient pu l'imaginer, comme les hommes n'auraient jamais pu l'engendrer. Je suis un goéland, le seul qui parle et vous comprend, le seul qui peut vous dire d'où vient le vent, vous expliquer mes ailes déployées, vous regarder sans paupières, vous consoler sans vous parler. Si seulement vous aussi pouviez vous réfugier dans un bruissement d'ailes, sur le pont de ce vieux bateau échoué sur la berge, qui fait peur aux passants et amuse les enfants. Je reviens des cabanes, cette superbe bande de terre et ces maisons coloriées entre étangs et salins, à l'entrée du bois des Arresquiers, plat, sombre, à la fois sublime et intrigant. Je suis un goéland, habitant de Frontignan, une petite ville qui, tout comme mon îlot et comme moi, oiseau de la mer, de la lagune et des étangs, plane entre le ciel et l'eau. Si j'ai pris la parole ce soir, c'est qu'un pêcheur qui s'est perdu a emprunté ce platelage en bois entre la Gardiole et la Mausson et m'a permis de vous rassurer. Bien sûr, vous ne volerez jamais, vous ne déploierez pas plus vos ailes que je ne parlerai ni ne chanterai de chansons. Et bien sûr que vous imaginez autant ma vie et rêvez de vivre ma vie que moi la vôtre. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire. Une chose à vous demander quand vous vous baladerez au bord de l'eau, dans les bois ou dans les rues de New York. Pensez fort à ce petit îlot, un îlot plat, isolé comme un mirage, un îlot que vous pensez ne jamais explorer. Je suis juste vous dire qu'une seule chose est sûre, en cherchant bien ou en fermant bien les yeux, vous découvrirez que quelque part, tout près de vous, votre îlot vous attend. Un îlot, bleu comme un mirage, un îlot entre le ciel et l'eau.
Wow, merci Nanou, bleu comme un mirage. Merci. Alors, Pierre Lune, c'est à toi.
Chapeau de paille sur la tête, la gourde remplie d'eau, j'étais prête. Une fois passée la lourde porte en bois au heurtoir imposant, gros point de bronze toujours prêt à frapper, je descendais les trois marches du perron au pied duquel des géraniums rouges éclatants tentaient de trouver quelques gouttes d'eau dans le paysage aride. À eux seuls, ils donnaient toute la lumière à la petite place commune, témoin des soirées au village où résonnaient guimbardes et guitares, où l'écho emmenait très loin derrière les montagnes les chants polyphoniques. Les bancs nous invitaient à la pause, sous la fraîcheur des arbousiers, des oliviers et des caroubiers. Nous les appelions en riant les arbres au chocolat, à cause de leurs fruits marrons, durs, au goût de chocolat. C'était ma halte avant d'aborder la pente menant à la Chiosa. Pendant un bref instant, je regardais au loin le vieux puits, me demandant s'il allait surgir. Serait-il dans mes pas, respirant avec moi l'odeur insistante du maquis ? Après un bref instant, j'entamais mon périple. Je verrai. La pente menant à la Chiosa était si difficile à vaincre qu'il fallait s'y reprendre en plusieurs fois. Peut-être serait-il là, à la première pause, celle des figuiers de Barbarie. S'il est là, il s'attaquera aux épines redoutables pour m'en offrir le fruit. Ce que je redoutais en fait, il reste toujours de minuscules épines une fois le fruit épluché. J'avais le souvenir des piqûres de ces fruits comme de véritables brûlures. Il fallait reprendre la marche jusqu'à la deuxième pause, où je savais déjà où m'asseoir. Une large pierre blanche, creusée comme un fauteuil, et que l'ombre des figuiers rendait incontournable. S'il vient, il mettra dans sa sacoche une provision de figues, que nous dégusterons là-haut, arrivés à la Chiosa. Voilà, enfin, ce petit morceau de terre, la petite Chiosa, objet du désir des ancêtres, point culminant du village, occasion de lutte et d'arrachement. Là, il fallait s'arrêter, s'asseoir et regarder. En bas, le village, Pozzaccio, niché dans le golfe d'Ajaccio, calme et serein au milieu de la mer. Au loin, des voiliers, comme les petits bateaux en papier des enfants. L'odeur du maquis monte, entêtante, nous enivre. Là, dans ce carré de terre surplombant la mer et le ciel, je m'assoupissais souvent quelques instants. J'ai ouvert les yeux. Il y avait à côté de moi un panier de figues.
Merci Pierre Lune. Ah, Lila. Lila. Merci Pierre Lune, merci, merci. Alors, Amandine, nous t'écoutons.
Je sors de l'auberge, carte en main. Droite, gauche, je ne sais pas bien. J'ai décidé d'utiliser la carte ce jour. Après tout, je suis à Dublin. J'ai le temps. Ce sera droite, puis droite. Je m'y revois. Il fait froid. On est le 21 juin. Traversée du pont, quelques gouttes, gauche cette fois. En face, à une quenne. Je suis bien à Dublin. Et sur la bonne route, intersection. Là, je ne sais plus. Droite ou gauche, tout droit, je suis perdue. C'est celle de gauche. Il faut longer l'université. Elle est magnifique. Rien à voir avec Montpellier. Ah si, un vélo désossé. Tout droit, encore et encore, j'ai décidé de marcher. J'ai le temps aujourd'hui, du temps avec moi-même. La carte ne ressemble pas du tout au chemin que je prends. Au moins, le GPS, c'est factuel. Tourner à gauche, continuer sur 200 mètres, simple. J'ai l'air d'une touriste. En même temps, j'en suis une, avec ma carte, mon manteau, mon parapluie. Ils sont tous en t-shirt. Comment font-ils ? Je suis gelée. Il s'approche de moi. Il veut m'agresser ou quoi ? Me demander de l'argent ? C'est usant, ces gens. Non, je ne fume pas. Je n'ai pas de cigarette, je n'ai pas de monnaie et je ne suis pas célibataire. Et je n'ai pas de montre non plus. Il me demande s'il peut m'aider. J'ai l'air si paumé avec ma carte, mon parapluie et mon kawé. No, thank you, I'm on my way. Je suis sur mon chemin. Il insiste. Where do you want to go? Je vais au musée car il y a deux œuvres de Vermeer. J'aime beaucoup Vermeer. Je me garde bien de le lui dire. Il pourrait me suivre, me découper. Autour de nous, les mouettes en ombre jacassent. Thank you, thank you. Il ne lâche pas. Il a l'air gentil. Un pickpocket malfrat, potentiel violeur gentil, ça existe? Je tiens mon tac à en perdre ma carte, qui en passant commence à prendre l'eau. Je le regarde. Il a l'air normal. Soit je suis parano, soit il cache bien son jeu. Where are you from? Il me dit. France, I'm from France, le pays où on peut se faire agresser à tous les coins de rue. Il poursuit, great, puis en anglais, je suis allé à Marseille. Merveilleux exemple. So, can I help you? Soit il est lourd, soit il est vraiment gentil. Je commence sérieusement à douter, mais de moi, de ma perception. Je suis mal habituée, et surtout pas aux inconnus qui veulent aider. J'apprendrai que c'est naturel chez eux. Ils sont comme ça, les Irlandais. Un peu comme les ch'tis, ma patrie, le cœur sur la main. Je lâche, j'ai compris. Je lui dis, je vais au musée d'art. Ah, mais je prends le même chemin jusqu'à la prochaine intersection. Let's go. Changement de décor. Il me demande si l'Irlande me plaît. Ah, je suis arrivée hier. On est le 21 juin. Il fait un temps de chien depuis ma sortie de l'aéroport. Alors, comment dire? Mais oui, en fait, je suis heureuse d'être là. J'ai un jour pour faire Dublin. Je ferai 16 kilomètres. Avant de rejoindre Galway pour une formation d'une semaine. On papote. Comme des potes. De tout, de rien, de la France, de la météo, de Dublin. C'est la première personne à qui je parle en 24 heures et ça fait du bien. On rigole, je lui raconte ma vie. Je travaille à l'université et celle de Dublin est juste incroyablement belle. Une œuvre d'art. Nous l'allongeons toujours. Pas d'immeubles, mais des petites bâtisses. Un grand terrain immense, magnifique au milieu. Il me raconte son voyage à Marseille. Il a aimé. Tout le monde aime la France. Moi, je suis de plus en plus ravie d'être à Dublin. J'ai oublié la pluie. J'ai toujours ma carte. Je me sens bien à ma place. On arrive à l'intersection. Déjà, oh non, je suis dépitée. J'aurais continué cette discussion quelques heures. Eh oui. Il me dit de continuer à gauche, me montre l'entrée de l'université au passage, me souhaite une super formation, me dit au revoir et s'éloigne. Je le regarde partir. À cet instant, mon intuition biaisée ne me trompe plus. Je sais que je vais passer un séjour incroyable en Irlande. Ce sera le cas. Ce séjour me marquera. Les Irlandais sont d'une gentillesse inégalable. Nous devrions tous devenir Irlandais. Je crois que leur état d'esprit, c'est « si vous voulez aider ou rendre quelqu'un heureux, faites-le. Le monde en a besoin. On en a tous besoin. »
Merci Amandine, une autre île, une île, Bleu Mirage aussi je pense. Merci Amandine. Ah, vous êtes à l'écoute de FM+, le 91 sur la bande FM. Et c'est la lecture des textes écrits à l'atelier d'écriture radiophonique du mardi soir. Et tout le monde peut venir si vous vous renseignez. Alors, Clément, c'est à toi.
Réveil cotonneux, sans alarme. Quel plaisir de n'avoir aucune obligation. Petit déjeuner, en suivant mon feuilleton du moment, l'horrible affaire des viols de Mazan. Chaque jour défile une galerie d'affreux personnages. Petite consultation du site bleu, petite actualisation. Le soleil est déjà haut. Quand je décide d'aller prendre l'air, je n'ai absolument rien de productif prévu aujourd'hui. Une clope en attendant le bus, descente à Agropolis. En longeant le Lèze, je ne croise personne. Nous sommes au milieu de la semaine. Le commun des mortels a des obligations. Je prends le temps de regarder les feuilles tomber des arbres. Déjà l'automne, pas à pas, je ne suis pas pressé. Aucun rituel dans l'immensité du présent. Arrivé à la base nautique, un ancien orphelinat, Des potes m'ont dit qu'un soir, ils ont entendu des bruits angoissants, étant persuadés d'être témoins de la manifestation d'esprits torturés. Je n'en crois pas un mot, sachant l'être humain si sensible à la suggestion. C'est pourtant sur ce lieu que je vais être victime d'un événement surréaliste, une invocation du grand capital venue tourmenter mon âme. J'ai croisé ma conseillère France Travail. Elle m'interpelle directement. « Monsieur, que faites-vous ici ?» J'effectue ma balade matinale. Je pense qu'il est essentiel d'avoir un esprit apaisé par de saines habitudes afin de séduire d'éventuels employeurs. Balade matinale ? Il est 16h, nous sommes au milieu de l'après-midi. Mes excuses, mes journées s'étalent d'habitude de 14h à 6h. Je me trouve plus efficace dans mes recherches la nuit. Et comment comptez-vous être réveillé pour notre rendez-vous demain matin ? Je compte prendre mes dispositions. Un tacos 3 viandes, une branlette et un Valium provoqueront un chaos à 23h d'après mes pronostics. Vous me rassurez, vous êtes un chômeur responsable. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Demain, n'oubliez pas vos gommettes, je vous demanderai de donner une couleur à notre entretien.
Yeah, Clément, bien vu. Terrible, bravo. Les fantômes de la Valette. Promenade du Lez. Ah, merci Clément. Alors, Christine, quand tu veux.
J'ai passé plusieurs mois à travailler à une cadence extrême, me demandant parfois comment je faisais pour tenir, comme shooté à la dopamine. Mais arriva un jour où mon corps et mon esprit me dirent « stop, ça suffit ». J'aurais pu, comme à mon habitude, revêtir mon costume de Calimero et pleurnicher sur mon sort, assise sur le coin de mon canapé. Ce jour-là, le soleil brillait et la température était douce pour un jour d'automne. Une tempête était annoncée pour le soir et devait durer plusieurs jours. J'enfourchai mon manche à balai et plein gaz vers la mer. J'atterris derrière les dunes, un endroit qui ne m'était pas familier, mais peu importe. Je m'avançai sur le chemin d'un pas lourd et fatigué pour commencer. Un joli papillon rouge croisa mon chemin et se posa sur une fleur pour me saluer. Mes pas déliaient mon stress. Je devins à nouveau capable d'observer la nature, les arbres, les plantes et les herbes sèches. Le chant des oiseaux parvint à mes oreilles. Arrivé au bord de la mer, ma poitrine s'allégea, ma respiration fut plus ample et mes poumons se remplirent d'une intense odeur de iode. Les pointes de l'eau jouaient à saute-mouton sur les vagues. Mes pieds me guidèrent machinalement vers l'eau et s'y trempèrent. Je regrettais de ne pas avoir pris mes affaires de bain. Plus loin, une femme plus courageuse que moi était en train de se baigner. Je la contemplais mi-admirative, mi-craintive. Elle osait braver le danger annoncé. Et si elle se noyait ? Autour de moi, personne. Comme si le mauvais sort avait lu dans mes pensées, la femme fut frappée par une vague et disparut dans l'immensité de la mer. Après plusieurs secondes, elle n'avait toujours pas réapparu. Mes pouvoirs magiques ne suffisaient pas à simplement claquer les doigts pour la sortir de cette mauvaise posture. En toute hâte, je retirai mes chaussures et mon manteau et je me jetai à sa rescousse. Par chance, elle était née sous une bonne étoile, car le sol sous nos pieds n'était pas profond et son poids de plume me permit de la ramener au bord de l'eau sans grands efforts. Ce n'est qu'une fois qu'elle reprit son souffle que je la contemplai. « Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Il faut savoir que ma famille habite très loin d'ici et que ma mère ne se baigne plus depuis des décennies. » L'ambiance du bord de mer aujourd'hui me rappelait ma première virée à la plage avec mes enfants, petit à l'époque, et ma mère. « Ça fait 20 ans que tu habites ici, jour pour jour », me rappela-t-elle. « C'est moi qui t'ai encouragée à venir alors que tu n'en avais nulle envie. L'un des premiers soirs, quand tu t'es assise sur le bord de mon lit, je t'ai dit « tu as fait le plus difficile ». Mais la question qui me trottait par la tête était «
Pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Et pourquoi se mettre en danger dans la mer alors qu'elle déteste l'eau? Ça ne donnait pas de sens. Pendant qu'elle se séchait et enfilait des vêtements chauds, je m'interrogeais. Est-ce que j'aurais été plus heureuse en restant là-bas? La vie y aurait été plus douce, plus sécurisée, c'est certain. J'aurais élevé mes enfants, exercé un métier, nous serions partis en vacances, comme une vraie famille Kellogg's. Mais est-ce que j'aurais ouvert les bras à toutes les expériences faites ici, embrassé toutes ces opportunités, donné libre cours à toutes les passions qui alimentent la flamme qui brûle en moi? Je ne le saurais sans doute jamais. Ma boule de cristal a toujours refusé de répondre à cette interrogation. Le balai s'avança comme par magie et nous reprîmes le vol vers mon chez-moi.
Yeah, merci Christine. Le vol vers mon chez-moi. Merci Christine. Alors, c'est à toi Carolina. Et donc, nous t'écoutons.
On lui avait dit que le trésor était introuvable. On lui avait dit qu'il perdait son temps. Que le trésor était enfoui dans une grotte impraticable perdue depuis des siècles. Il n'en avait rien écouté. Sam avait passé son enfance à imaginer les joyaux qu'il y trouverait. Dès qu'il fut en âge de quitter la maison, il empaqueta ses rares affaires et ses quelques économies et promit de ne revenir que lorsqu'il aurait trouvé son trésor. Après des années de recherche à travers le pays, emporté par un espoir inébranlable, il se trouvait enfin devant l'entrée de la grotte dont il avait tant rêvé. Beaucoup plus grande que dans les vieux récits, elle était couverte de grandes lianes à la végétation épaisse. Il y était. Empreint d'une émotion beaucoup plus forte que celle qu'il avait fantasmée, ses yeux s'embuèrent de grosses larmes qui coulèrent aussitôt le long de ses joues aux poils drus. Ses prières devenues réalité, il resta un instant immobile, laissant son corps réagir comme bon lui semblait. Après un moment, la raison le réveilla de sa transe. Sam sortit de son baluchon un lot de bougies qu'il enfonça dans les poches, une boîte d'allumettes ainsi qu'une torche recouverte de tissu déchiré. Il posa soigneusement le reste de ses affaires dans un coin et jeta un rapide coup d'œil en arrière, par principe, bien que l'épaisse végétation le rendait totalement invisible d'un éventuel passant. Il prit une grande inspiration et posa un premier pied dans l'antre. Le sol était humide et agréable sous son talon. Il dévala une petite butte et atterrit dans une boue tiède qui recouvrit totalement ses larges orteils. Très vite, la luminosité venait à manquer. Il alluma sa torche et avança le bras tendu en avant. Par moments, une chauve-souris dérangée par sa proximité venait à s'envoler. Mais les bruits à l'extérieur s'étaient totalement coupés et Sam était désormais enveloppé d'un silence que seuls ses pas venaient perturber. Un clapotis régulier attira son oreille attentive. Il marcha doucement dans sa direction, l'esprit embué de pensées diverses, de peur et d'excitation, qu'il en venait à oublier sa propre existence. Sa respiration régulière le ramena sur terre et il continua jusqu'à un plan recouvert d'eau. Hésitant un instant, Sam déposa ses bougies et ses allumettes sur une roche, puis s'enfonça dans l'eau fraîche. Une inquiétude soudaine s'empara de lui lorsqu'il toucha le fond. Quelque chose de lisse en ombre infinie. Les yeux écarquillés, il reconnut la texture de branches entassées et se rassura aussitôt, puis avança sans rechigner, prenant garde de ne pas s'enfoncer d'un coup. L'eau lui arriva très vite aux cuisses, puis à la taille, sans jamais dépasser son torse. Sans le savoir, il se dirigeait vers une source de lumière au fond de la grotte. Quelques pas précautionneux plus tard, il l'aperçut et s'arrêta brusquement, le cœur battant plus fort qu'il n'avait jamais battu par le passé. Sam écarta sa torche. Il y avait bien une lumière bleutée, apaisante au loin. Il se força à marcher lentement et petit à petit sortit de l'eau. Ici, le sol était sablonneux et les grains venaient s'infiltrer entre ses orteils. Le trésor est caché sous un ciel étoilé dont la lumière ne s'éteint jamais, lui avait-on raconté. Sam avança très doucement, le cœur palpitant et la torche baissée, illuminant chacun de ses pas. Au-dessus de lui, il découvrit un ciel étoilé contre la voûte de roches humides et resta ainsi ébloui.
Waouh! Merci Carolina, merci. Lumière bleutée. Merci beaucoup. Alors Marie, Marie, c'est à toi.
Bonjour, au revoir. Il est 9h du matin. Elle part. Le vélo est gonflé à bloc. Sur le porte-bagages, une poche imperméable comprenant tente et sac de couchage. De chaque côté, les sacoches trouvées dans le garage des copains, remplies de juste ce qu'il faut pour atteindre son objectif. La Rochelle, Lorient. Nous sommes en plein été, sont à prévoir vent et ondées entre deux rayons de soleil. Quitter pour quelques jours l'enfant blond qui a illuminé les deux années précédentes, chaque heure du jour et de la nuit. Le laisser entre les mains de son père, beaucoup, et de sa nounou, c'est bien. Confiance. Les petits chemins arpentés sont presque plats et le temps clément, parfait pour une mise en route. Seule, enfin seule, elle avait oublié ce que ce pouvait être. Libre de son temps, le temps de regarder les champs de tournesol, jaune d'or flamboyant, élancés vers le ciel à l'heure des 12 coups de minuit, de midi. Le lièvre jaillir du fourré, le serpent se prélasser sans gêne au milieu du sentier, même pas peur. Le temps d'écouter, le cheval blanc hennir au bord du pré, la grenouille croassée dans la mare, au pied de laquelle gît le vélo, tandis qu'elle dévore son sandwich préféré thon avocat. Le temps de respirer, l'odeur de l'herbe coupée, celle du feu de broussaille, ou celle de la mousse humide agrippée à l'arbre. Le temps de chanter à tue-tête, Billie Holiday, Isabelle Mairo, Abbey Lincoln, Barbara. Le temps d'hurler, qu'elle est trop bien, qu'elle s'en fout, qu'elle a fait le bon choix. Ah, voilà un camping. S'y poser pour la nuit. La tente montée et la douche prise, elle sort, petit but à gaz, casserole et soupe lyophilisée de la sacoche, du pain aussi, et du fromage. Il fait un peu frais, elle a mis sa polaire et s'assoit en tailleur. Au-dessus d'elle, un ciel, légèrement voilé, suffisamment pur pour laisser se dessiner une étoile, puis une autre. Et encore une. Oh, une étoile filante. Fais un vœu. Je veux capturer cet instant. Non, plutôt l'émotion de cet instant. Qu'il soit à jamais transposable. Soudain, une voix tonitruante et grinçante surgit derrière elle. Sursaut, perte d'équilibre, peur, intranquillité. Ça te gêne pas de laisser ton fils 10 jours? Il n'est pas vieux et tu ne lui as pas donné cette habitude. Franchement, c'est pas le rôle de la nounou de s'en occuper quand tu pars et quand tu prends du plaisir. Seule en plus. Mais où as-tu la tête? Dans les étoiles, je vois. Imagine, il fait une chute. Hospitalisation, où est la mère? Ah d'accord, ben le père alors. Mal au ventre, boule dans la gorge, noir. Cri, non pas cri, silence, colère rentrée. Et puis merde, continuer le chemin qui mène à la mer. La regarder, l'écouter, la caresser, se jeter dans son sein. Et puis, tout raconter au petit garçon blond à son retour.
Yeah. Merci Marie, le petit garçon blond et son retour. Merci Marie, merci, merci. Merci Pierre Luna. Merci Amandine, merci Carolina, merci Marie, merci Nanou, merci Christine, et elle se cache, merci. Je t'ai dit Nanou, je t'ai dit ? Ah bon, ça va. Et Clément, voilà. Ah, merci beaucoup. Je vous ai piqué des mots. Alors, ce que je vous ai piqué, c'est entre le ciel et l'eau, des géraniums, rouges, éclatants, il fait froid, aucune obligation, assis sur le coin de son canapé depuis des siècles, elle dévore son sandwich adoré. Oh, ça a donné ça ce soir. Voilà, on se retrouve mardi prochain, on parlera cinéma. C'est la semaine du cinémède, on parlera cinéma. À bientôt, on vous laisse avec les programmes de la concoction de Stéphane. Bye bye.